Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un ancien détective devenu cinéaste qui supplée les défaillances de la justice américaine jusqu'à sauver un innocent. Cet homme, c'est Errol Morris, et son film, c'est The Thin Blue Line, l'affaire Adams, dans sa traduction française. Le 27 novembre 1976, un jeune Américain de 27 ans, Robert Wood, policier en patrouille, est tué de 6 balles dans le corps sur le bord d'une route au Texas, alors qu'il procédait à des contraventions pour excès de vitesse. Un homicide à l'arme à feu, comme les États-Unis en connaissent tant, avec cette spécificité, la victime est un policier. Police et justice vont alors s'atteler à résoudre et à punir le crime le plus rapidement possible. Le coupable présumé, bien vite condamné, est un autre jeune Américain de 27 ans, Randall Adams. Sur la base d'une enquête hâtive et de témoignages douteux, l'accusé, qui crie son innocence, est envoyé dans le couloir de la mort. Une erreur judiciaire qui aurait pu finir en horreur judiciaire si un documentariste ne s'était pas penché sur l'affaire, c'est donc Errol Morris et son Thin Blue Line. Notre invité aujourd'hui, Jean-Xavier de Lestrade, réalisateur. Il a remporté l'Oscar du meilleur film documentaire en 2002 pour son film Un coupable idéal. Son regard sur notre sujet sera donc un regard d'expert. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire, Jeanne Mayer. Coordination, Christophe Barrère. Réalisation, Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter.
Hiver 1976, Randall Dale Adams, 27 ans, et son grand frère, Ray, quittent l'Ohio de leur enfance pour la Californie où ils comptent trouver du travail. Issus d'un milieu modeste, ils espèrent changer de vie après être tous les deux passés par l'armée. Le Benjamin, Randall, entend s'installer avec sa petite amie, Cathy, sous le soleil californien pour peut-être reprendre des études de dessinateur industriel. Leur voyage vers le sud du pays est un vrai road trip à l'américaine. Dans leur Ford Galaxy, les deux frangins enchaînent les McDo et les kilomètres, traversent des forêts verdoyantes, des plaines sans fin, des forêts encore, jusqu'à ce que le paysage s'assèche et jaunisse. Ohio, Tennessee, Arkansas, Texas. Dans l'autoradio, une cassette de Charlie Daines et cette chanson qui dit comme un signal funeste: appelle Trudy, dis-lui que je suis coincé ici à Dallas, ils ne veulent pas me libérer de cette prison. Call up Trudy on the telephone. Send a letter in the mail. À Dallas, au Texas, Randall Ray Adams décide de faire une pause pour se renflouer avant la Californie. Randall trouve sans difficulté un emploi de réparateur de palettes en bois. Les deux frères prennent une chambre bon marché dans un motel en attendant que Cathy les rejoigne pour Noël un mois plus tard. Pour Randall Adams, c'est une nouvelle vie qui commence. Et il s'en souvient dans le Thin Blue Line, le documentaire d'Errol Morris.
Je suis allé au boulot et personne ne s'est pointé. C'était le week-end et on ne travaillait pas toujours. En retournant chez moi, je suis tombé en panne d'essence. Alors que je descendais la rue, un bidon d'essence à la main, quelqu'un, une personne, s'est arrêté à ma hauteur. Et j'étais à moins de 100 mètres de la voiture. Comme c'était Thanksgiving, toutes les stations étaient fermées. Il m'a alors demandé si j'avais besoin d'aide. Je suis donc allé bosser ce jour-là. Pourquoi j'ai rencontré ce gamin? Je ne sais pas. Pourquoi cette panne ce jour-là? Je ne sais pas. Mais c'est arrivé.
Le jeune homme qui s'arrête pour aider Randall Adams ce matin du 27 novembre 1976, c'est David Ray Harris. Ce jeune Texan, à peine 16 ans, conduit Randall Adams jusqu'à une station essence avant de passer la journée avec lui. Solitude contre solitude. Les deux hommes boivent quelques bières, fument quelques joints, avant de se rendre au drive-in pour regarder un film. Randall Adams n'apprécie pas tellement la compagnie de David Harris, qui partout où il passe ne cesse de chercher querelle. Et puis il aperçut un fusil et un pistolet dans la voiture du jeune garçon, ce qui ne le rassure pas. Mais Harris lui a sauvé la mise et Adams se sent, disons, obligé. Il l'accompagne donc dans son errance, ce samedi 27 novembre 76, avant de récupérer sa voiture et de rentrer aux alentours de 22h. Alors que Randall Adams s'endort, Robert Hood et Teresa Turco, deux policiers de Dallas, patrouillent dans la nuit glacée. Pour eux, c'est une soirée de routine, quelques excès de vitesse et un arrêt au Burger King pour un café et un milkshake. Mais peu après minuit, Robert Hood s'approche d'une voiture dont les phares sont éteints. Il compte lui demander de se ranger sur le bas-côté. Le policier s'approche quand quelqu'un ouvre le feu. Touché au cerveau, au poumon et au foie, le flic s'écroule, raide mort. On le sait, c'est dans tous les pays la même chose. Tuer un policier coûte plus cher que tout. Ici, c'est la police de Dallas qui est concernée et la mobilisation est totale. À commencer par une récompense de $25,000 en échange de toute information permettant de retrouver le meurtrier du cab Robert Hood. Une grosse somme, dans l'espoir de faire avancer l'enquête. Parce que la police n'a aucun indice, aucune piste. L'unique témoin du crime, la collègue de la victime, ne se souvient de rien, si ce n'est du sang de Robert Hood s'écroulant sur le bitume et du noir profond de la nuit. Le meurtrier était seul, c'est tout ce qu'elle a pu noter. À l'époque, Teresa Turco, 54 ans, est la seule femme policière à patrouiller de nuit dans le comté de Dallas. Alors, au lendemain du drame, ses collègues l'accusent de tout et surtout d'incompétence. Il est vrai qu'elle n'a pas relevé la plaque d'immatriculation du fugitif, un comble. Et puis elle n'a pas bien visé lorsqu'elle a essayé d'atteindre l'agresseur, si tant est qu'elle ait vraiment tiré d'ailleurs. Et puis au moment des faits, elle buvait un milkshake en plein service. Quand deux semaines plus tard, Teresa Turco est finalement autorisée à reprendre du service, totalement blanchie, l'enquête n'a pas avancé d'un iota. Dale Holt, enquêteur à l'époque, s'en souvient.
Quand on a commencé à rassembler ce qu'on avait comme information, il s'est avéré qu'on n'avait rien du tout. La seule chose qu'on savait, c'est qu'on cherchait une Vega bleue. Toutes les Vegas immatriculées au Texas ont dû être arrêtées et fouillées. Des gens appelaient le bureau. J'ai une Vega qui n'est pas bleue, mais vous devriez venir l'inspecter. Assurez-vous que ce n'est pas la mienne, car j'en ai assez de me faire arrêter. J'ai peur.
Passent les jours et les semaines, voilà quasiment un mois que Robert Hood a perdu la vie sans que son meurtrier n'ait été arrêté. Mais à la fin du mois de décembre 76, accablé par la presse et par l'opinion publique, très conservatrice au Texas, la police pense enfin avoir trouvé son homme. Randall Adams. Ce même Randall Adams, installé depuis peu à Dallas, où il s'est arrêté avec son frère avant la Californie. Face aux enquêteurs, Adams plaide son innocence et retrace, pour la prouver, cette fameuse soirée du 27 novembre. La panne, David, le jeune homme qui l'a emmené chercher de l'essence, puis les bières, la marijuana, le cinéma, le retour au motel. Sous pression, un policier le braque avec son arme. Il n'a rien à boire, ni à manger, pas d'avocat. Alors il tente de ne pas se laisser submerger par l'inquiétude et l'incompréhension. « De quoi avez-vous parlé sur la route du motel à Scarfour ?» ne cesse de lui demander les enquêteurs. Adams ne s'en souvient plus. Et pour les enquêteurs, cet oubli est un aveu, car ce Carrefour, c'est celui du crime. Jackie Jackson et Dale Holt, deux des enquêteurs chargés de l'affaire, se persuadent alors de sa culpabilité.
Il admet avoir conduit la voiture et tourné à droite sur Inwood Road, en sortant de l'autoroute 35 ou de l'autoroute 183. Il admet avoir conduit. Après, il dit avoir tourné à droite sur Inwood Road. C'est la fin de la déposition. Il dit qu'il ne se souvient de rien après ça.
Il ne se souvenait pas d'une fusillade. Il ne se souvenait pas s'être fait arrêter par un policier. Comme par hasard, il avait perdu la mémoire. Il se souvenait avoir conduit et s'être approché des lieux du crime. Mais à partir de là, il avait un trou noir et ne se souvenait de rien jusqu'au retour au motel 10 minutes plus tard. il se souvenait parfaitement de tout le reste. On dira que cette perte de mémoire tombait vraiment bien.
Et ce que Randall Adams ne sait pas, c'est que David Harris, le jeune homme qui l'a emmené chercher de l'essence le matin du meurtre, a livré une autre version des faits à la police. Dans sa déposition, le garçon de 16 ans avoue s'être rendu à Dallas depuis sa petite ville de Vidor dans une voiture volée et avec les armes de son père, en l'occurrence un revolver et un fusil. Puis, explique l'adolescent, il a passé la journée et la soirée avec Randall Adams avant de se faire arrêter par une patrouille de police. Et c'est à ce moment-là, dit-il, qu'Adams aurait tiré 5 ou 6 balles sur le policier avec le revolver qui était caché sous le fauteuil. David Harris affirme ensuite être rentré chez lui, très inquiet, avant de jeter l'arme dans un marais. Le revolver, identifié comme l'arme de crime, y est effectivement retrouvé. Il se trouve que David Harris est connu des services de police pour des violences, des cambriolages, des braquages, qui doivent être bientôt jugés. C'est un garçon poli et sympathique, avec sa frimousse blonde, son sourire malicieux et son accent texan bien prononcé. Pour les enquêteurs, Harris est certes un délinquant, mais sympathique et surtout un gars du coin. Immédiatement, la police choisit de le croire, lui, plutôt que Randall Adams, ce fumeur de joint aux cheveux longs, mal coiffé et surtout qui vient d'ailleurs. Le 21 décembre 1976, Randall Adams est arrêté pour le meurtre du policier Robert Wood. Évidemment, il est incarcéré. Lors du procès qui se tient 4 mois plus tard, Edith James et Dennis White, ces 2 avocats, arrivent confiants. Parce que rien n'accuse leur client, si ce n'est ce David Harris dont ils entendent mettre en avant la personnalité complexe et la carrière de braqueur. À la différence justement de Randall Adams, dont le casier est vierge et qui n'a aucune raison de tirer sur ce policier. Mais la justice texane estime que les antécédents judiciaires du témoin n'ont rien à voir avec le meurtre pour lequel Randall Adams est jugé. Et les témoins appelés par la défense pour charger David Harris ne sont pas autorisés à se présenter à la barre. Bref, un procès cauchemardesque pour Adams. D'autant que le psychiatre légiste James Grigson, un sacré client celui-là, réclame la peine de mort. L'accusé est un sociopathe, dit-il, et il doit mourir pour ne pas tuer de nouveau. Randall Adams raconte dans The Thin Blue Line, le documentaire d'Errol Morris.
Grigson n'a pas arrêté de parler pendant 2h30 de tous ses diplômes, qu'il était allé par-ci, par-là, qu'il avait étudié ça. Il m'a traité de Charles Manson, d'Adolf Hitler. Il a dit que j'étais le genre de personnalité qui travaille le jour et qui rampe la nuit. Ce gars-là, Grigson, a témoigné en disant que mon état mental allait tellement s'aggraver dans le futur que s'il me libérait maintenant, je risquais d'égorger la moitié du comté de Dallas. Et ça alors qu'il m'a parlé que pendant un quart d'heure, que j'ai jamais été condamné avant, j'ai jamais été arrêté, j'ai pas été violent pendant 28 ans. Il me voit une seule fois et il décide qu'il faudra me surveiller toute la vie après 15 minutes de conversation. Il est barjo.
Le 3 mai 1977, sur la base du témoignage de David Harris, du psychiatre James Grigson qui se prend pour un procureur, et de 3 témoins oculaires appelés par surprise au dernier jour du procès, Randall Adams est jugé coupable. Ce jeune homme de 28 ans est condamné à la chaise électrique, et en première instance, et en appel. Sa mort est programmée le 8 mai 1979, avant d'être commuée en prison à vie, 3 jours avant l'échéance, sur décision de la Cour suprême des États-Unis. Écoutez la réaction des avocats Dennis White et Melvin Carson Bruder.
Depuis son procès, je ne pratique plus en tant qu'avocat. Je n'ai pas fait un procès depuis que j'ai entendu le verdict du jury dans cette affaire. Et je n'ai pas l'intention de recommencer. Je vais laisser d'autres gens s'occuper de ce genre de problème pendant un moment. Parce que si la justice peut être aussi mal faite, je préfère changer de métier.
Les procureurs de Dallas disent depuis des années « N'importe quel procureur peut condamner un coupable, mais seul un grand procureur peut condamner un innocent. » À ce jour, je pense que M. Mulder considère la condamnation d'Adams comme l'une de ses grandes victoires, sans doute parce qu'il n'était pas totalement convaincu de sa culpabilité.
En prison, Randall Adams travaille dans un atelier de confection, se noie dans le sport, passe un diplôme et envoie des appels à l'aide là où il peut. Il écrit à des députés, aux médias, des associations de droit civique. En juin 84, après 7 ans passés en prison, la commission des recours en grâce et des libérations conditionnelles établit un rapport qui va dans le bon sens pour Adams. Oui, un rapport positif qui dit « Le détenu est un individu stable, intelligent et réfléchi, déterminé à rentrer chez lui dans l'Ohio où plusieurs offres d'emploi l'attendent. » Mais la dernière phrase est sans appel et fait voler les espoirs d'Adams en éclats. Il est avisé, dit cette phrase, qu'étant donné la nature même du crime, la libération conditionnelle ne serait pas recommandée. Au même moment, un documentariste méconnu prépare son prochain film. Diplômé de philo, Errol Morris, qui a travaillé comme détective privé avant de faire du cinéma, s'apprête à tourner un documentaire sur le docteur James Grigson, le psychiatre texan à qui Randall Adams doit sa condamnation à mort en 77. Surnommé Dr. Death, Dr. la mort, Grigson a dédié sa carrière d'expert judiciaire à la peine capitale, qu'il a préconisée pour 99% des inculpés examinés. Et c'est lui qui va parler à Errol Morris de l'affaire Adams en 1985, 9 ans après les faits. Intrigué, le documentariste décide de rencontrer le condamné dans la prison d'Eastham, au Texas. Et en entretien, un seul suffit à le convaincre, Randall Adams est innocent. Et le héros de son film, ce sera lui.
But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper. Look, blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that. Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one. Hand you the tool as you question your friendship has men like you. Gonna make me a convict, level of a felon when I've done nothing wrong. Blood on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from.
When you hear the sirens coming,
1986, 10 ans après que Randall Adams a été condamné pour le meurtre d'un policier au Texas, le réalisateur américain Errol Morris entame donc le tournage de The Thin Blue Line. Convaincu de l'innocence d'Adams, il entend faire de son film une contre-enquête et de ses interviews des preuves. Face à sa caméra, il y a donc Randall Adams, évidemment, mais aussi David Harris, le jeune garçon qu'il avait accusé du meurtre en 76. Ils témoignent tous les deux en uniforme de prisonnier, car David Harris a été arrêté pour un autre meurtre en septembre 85, et il attend son procès. Errol Morris choisit également d'interviewer le juge qui présidait le procès de Randall Adams 10 ans plus tôt, ainsi que plusieurs témoins, présents ou non d'ailleurs à l'audience, 3 des enquêteurs en charge de l'affaire et les 2 avocats du condamné. Les interviews se déroulent toutes sur le même modèle, même cadre, même lumière. Elles sont menées grâce à un procédé de son invention, l'interroton, ou tron, peu importe. Le principe est le suivant. Errol Morris, placé derrière un rideau, s'adresse à une caméra dont l'image est retransmise en direct à la personne interrogée. Lorsqu'il répond aux questions, l'interviewé ne regarde donc pas le réalisateur, mais un écran qui masque une caméra. Alors, il ou elle fixe la caméra elle-même, ce qui donne au spectateur le sentiment saisissant d'être regardé dans les yeux. Un dispositif ingénieux qui va aussi participer à libérer la parole. Emily Miller, son mari R.L. Miller et Michael Randall, les 3 témoins oculaires qui ont déposé contre Randall Adams en 77, se confient face à la caméra. Ils disent, contrairement à ce qu'ils ont affirmé devant les jurés, on ne voyait rien la nuit du meurtre, tant il faisait noir et froid. Difficile dans ces conditions d'affirmer catégoriquement que c'est Randall Adams qui a tiré sur le policier, alors que tous passaient là en voiture assez rapidement. El Bakar, une collègue du témoin, et R.L. Miller, voulait témoigner lors du procès de Randall pour exprimer ses doutes. Mais elle en avait été empêchée par le procureur, qui n'avait cessé de lui couper la parole et de l'humilier. « Vous ne devriez pas fourrer votre gros nez dans les affaires des autres », lui avait-il même conseillé.
C'était des ordures. C'était vraiment des ordures. Randy Miller est venu travailler un jour et il m'a parlé du policier qui s'était fait tuer la veille. J'en avais pas entendu parler. Je pensais que c'était encore une de ces histoires. Il avait apporté des journaux, disait qu'il n'avait rien vu, qu'il n'avait pas pu, car il faisait noir. Puis il a commencé à penser à l'argent. C'est là qu'il a eu l'idée. Je vais le dire avec ses mots à lui. Pour une certaine somme, il témoignerait de ce qu'on voudrait qu'il témoigne. Il dirait tout ce qu'on lui dirait de dire. Ou il verrait tout ce qu'on voudrait qu'il voie. C'est ce qu'il a dit. J'ai été choquée qu'il le fasse vraiment et qu'il aille raconter qu'il avait vu la fusillade et qu'il reconnaisse le garçon, qu'il l'identifie.
Témoins d'accusation, et en particulier les époux Miller, auraient possiblement menti. C'est ce que découvre le réalisateur Errol Morris alors qu'il tourne The Thin Blue Line. Par ailleurs, comprend-il également, plusieurs de ces témoins étaient au moment des faits dans le viseur de la police. Oui, pour des vols, des troubles à l'ordre public. Ce qui aurait pu les motiver à collaborer. Aucun d'entre eux n'a été poursuivi pour des faits qui étaient alors reprochés, qui leur étaient reprochés, tiens donc. Et les principales révélations du film The Thin Blue Line concernent Davis Harris, le jeune homme avec qui Randall Adams avait passé la journée ce 27 novembre 76. Face à la caméra d'Errol Morris, 2 anciens camarades se confient. De retour chez lui, à Vidor, quelques jours après le meurtre de Robert Wood, Davis Harris, alors âgé de 16 ans, rappelons-le, s'était vanté d'avoir battu un abattu un policier de sang-froid. Une information que les enquêteurs n'avaient pas prise en considération, puisque devant eux, le jeune homme avait nié toute implication avant d'accuser Adams. C'était bien comme ça, c'était pratique. Dans le film, David Harris explique lui-même. À l'époque, il était accusé de plusieurs braquages avec violence, qui auraient pu lui valoir une condamnation à vie. Avant le procès, le procureur l'avait prévenu. Si l'avocat de la défense te demande si tu as passé un marché avec la police, tu dois répondre non. En décembre 86, alors qu'il vient d'apprendre qu'il est condamné à mort pour le meurtre qu'il a commis un an plus tôt sans rapport avec l'affaire Adams, David Harris complète sa confession devant la caméra de Maurice. Une conversation enregistrée dont il n'existe pas d'image, car ce jour-là, la caméra était en panne.
Diriez vous qu'Adams n'a pas eu de chance ?
Tout à fait.
Sans cette malchance, il n'aurait rien eu. Vous avez entendu parler du bouc émissaire. Il y a peut-être eu des milliers d'innocents condamnés. Il y en aura sans doute des milliers d'autres. Pourquoi ? Qui sait ?
Il est innocent ?
Je suis sûr qu'il l'est.
Comment pouvez-vous en être sûr ?
Parce que c'est moi qui le sais.
Avez-vous été surpris que la police l'accuse ?
La police ne l'a pas accusé. C'est moi qui l'ai fait. Un gamin de 16 ans effrayé, qui voulait s'en sortir comme il pouvait.
Vous pensez qu'ils vous ont cru ?
Sans aucun doute. Ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient rien, jusqu'à ce que je leur lâche quelque chose. Ils ont pris ce qu'il y avait, c'est tout.
J'étais un gamin de 16 ans effrayé. Un mineur, un enfant dans un état, le Texas, où seuls les adultes peuvent être condamnés à mort. Pour l'avocate de Randall Adams, interrogé dans The Thin Blue Line, c'est d'ailleurs ce qui a valu à son client d'être condamné à la place de David Harris, que tout accusé pourtant. L'opinion publique texane, très favorable à la peine capitale, voulait un coupable, vite et un coupable, mort. Ce qui n'aurait pas pu survenir avec le tout jeune David Harris. Errol, le réalisateur, complète ce raisonnement par le choix du titre de son film. The Thin Blue Line veut dire la fine ligne bleue. C'est un emblème que les forces de l'ordre utilisent aux États-Unis pour commémorer un policier mort en service. Et plus généralement, pour symboliser les forces de l'ordre. Si en 76, la police se fit si rapidement au témoignage d'Harris, au risque de condamner un innocent, c'est parce que c'est un policier qui a été tué, semble nous dire le documentariste. Dans le film, le juge Don Metcalf, qui a condamné Randall Adams à la chaise électrique, utilise lui cette expression, « the thin blue line », et avec émotion.
J'ai toujours essayé, comme tous les juges que je connais, de ne pas montrer mes émotions au tribunal. En effet, si on montre nos émotions, le jury risque de croire qu'on favorise une partie plutôt qu'une autre. Alors on essaye de rester de marbre, passif et impartial. Et je dois admettre que dans l'affaire Adams, et je ne l'ai jamais vraiment dit, je n'avais jamais entendu une plaidoirie comme celle du procureur Mulder. Il parlait de la police comme d'une ligne bleue étroite qui sépare le public de l'anarchie. Et je dois avouer que mes yeux se sont embués quand j'ai entendu ça. Ça m'a ému, mais je ne pense pas l'avoir montré.
En mai 88, au festival de Dallas, au Texas, le public américain découvre pour la première fois The Thin Blue Line. Et le résultat surprend. Sans voix off, le documentaire d'Errol Morris est constitué d'interviews, mais aussi de reconstitutions à l'esthétique très léchée, façon film noir. Randall Adams et David Harris au drive-in, les policiers Robert Hood et Teresa Turco en patrouille, le soir du meurtre, Robert Hood s'avançant vers la voiture, juste avant de mourir, et enfin, le meurtre, 6 coups de feu dans la nuit. Les mouvements de caméra, l'éclairage des séquences, le montage, tout dans ces reconstitutions rappelle les films policiers américains des années 40 et 50. Pour la bande originale, le réalisateur a fait appel au compositeur de musique contemporaine Philip Glass, pionnier de la musique minimaliste, qu'il considère comme le maître de l'effroi existentiel. C'est cette dimension, la peur, le mystère, que les distributeurs du film vont exploiter. The Thin Blue Line est présenté au public comme un polar. Et la communication qui entoure sa sortie annonce davantage un film de fiction qu'un documentaire. Sur l'affiche, noire et bleue, une horloge, des yeux de fan et cette phrase accrocheuse « Solving the mystery is going to be a murder », soit en français « Résoudre ces mystères va vous tuer ». Harvey Weinstein, distributeur du film chez Miramax, depuis condamné pour de nombreux viols et agressions sexuelles, reproche alors à Errol Morris de mal vendre le film dans les médias. Oui, il juge le réalisateur ennuyeux et lui conseille de parler de The Thin Blue Line comme d'un thriller ou d'un film d'horreur. En France, le film est présenté en avant-première au Festival de Deauville. Jean Châtel y était pour la 5 en septembre 89.
Le Festival de Deauville représente d'abord un formidable tremplin de promotion. Promotion pour les majeures compagnies américaines, c'est-à-dire les grosses boîtes de production, la Fox, la Warner, la Columbia. Mais Deauville est aussi une vitrine pour les plus petites compagnies de production, ce que l'on appelle les indépendants. Et c'est le cas cette année, par exemple, pour American Playhouse, qui arrive à Deauville avec The Thin Blue Line. Établi d'après un fait divers authentique, le film présente en fait le dossier Adams, ce sera le titre français, un Adams accusé d'avoir, en 1976, abattu un policier de Dallas. À l'issue d'un procès mené par une défense inexpérimentée et un procureur violent, sur fond de maquillage, de preuves et de témoins corrompus, Adams, bouc émissaire idéal, sera condamné à mort.
The Thin Blue Line ne gagnera pas le prix de la critique au Festival de Deauville, pour lequel il était pourtant nominé. Et malgré son succès au box-office, il se voit également exclu des festivals les plus prestigieux, qui ne parviennent pas à établir s'ils ont affaire à un doc ou à une fiction. Mais peu importe pour le réalisateur, car le vrai succès de The Thin Blue Line se situe bien au-delà des cercles fermés des critiques de cinéma. Peu après la sortie du film, à l'été 88, des pétitions commencent à circuler aux États-Unis. Errol Morris l'a démontré, Randall Adams est innocent et il doit être libéré, estiment les Américains. Bingo. En 89, la Cour d'appel pénale du Texas annule sa condamnation et demande l'ouverture d'un nouveau procès. Les déclarations de certains témoins ne sont pas crédibles, estime la justice. Oui, mais 12 ans après que Randall Adams a été condamné à mort pour le meurtre de Robert Hood, sur la base précisément de ces témoignages-là. Et ce n'est pas fini. Le procureur du comté de Dallas, en charge du dossier, décide d'abandonner carrément toutes les charges contre Randall Adams. France 3 s'en fait l'écho.
Un bonheur bien compréhensible pour Randall Adams, libéré sous caution après 13 ans de prison pour le meurtre d'un policier qu'il n'a cessé de nier. L'acharnement du cinéaste Errol Morris et les 100 000 dollars de caution qu'il a versés sont finalement venus à bout de la justice américaine. C'est à l'occasion d'un documentaire sur cette affaire Adams que le cinéaste a pris fait et cause pour l'accuser. Son film démontre l'inanité des témoignages de l'accusation et enregistre même les quasi-aveux d'un autre condamné à mort.
En mars 89, 7 mois après la sortie de The Thin Blue Line, la condamnation de Randall Adams est annulée par la Cour d'appel du Texas. À l'aéroport de Dallas, après 12 ans passés sous les verrous pour un meurtre qu'il n'a pas commis, Randall Adams apparaît vieilli, mais souriant. Sous les crépitements des photographes, il quitte la ville entouré de sa mère, en pleurs, et d'Errol Morris, le réalisateur du film. Un mois et demi après sa libération, il était l'invité avec sa mère, Mildred Adams, de Jean-Marie Cavada sur le plateau de La Marche du Siècle, sur Antenne 2. En traduction simultanée, il explique vouloir maintenant prendre son temps pour profiter de la vie et reprendre des études.
J'espère pouvoir continuer ce que je suis en train de faire. Je veux commencer à faire des études de droit afin de poursuivre un certain nombre de magistrats et afin de pouvoir poser des questions et obtenir, j'espère, des réponses à ces questions.
À côté de vous, il y a votre maman, Madame Mildred Adams. Je voudrais vous demander comment vous avez pu supporter ces 13 années et notamment ces mois horribles où vous avez pensé que votre fils pouvait être exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis alors que vous le saviez innocent, car je crois que vous le saviez dès le départ.
Oui, je savais tout à fait qu'il était innocent. Je savais parfaitement qu'il n'avait pas commis ce crime. Mais je me suis adressée à Dieu, j'ai prié. Et tout à l'heure, on a parlé de nature. Et bien souvent, j'ai pris ma voiture. J'ai roulé dans la nature, dans les bois. Et je priais encore Dieu. Et je lui demandais d'envoyer Moïse. Vous savez, Moïse qui était envoyé à l'Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Et je lui disais, mais Dieu, envoyez Moïse pour sortir mon fils de la prison. Et 2 ans plus tard, Dieu a exaucé ma prière. Il a envoyé Moïse. Il a envoyé ce cinéaste.
12 ans, dont 2 dans le couloir de la mort. De ses 28 à ses 40 ans, en pleine jeunesse, il est privé de liberté alors qu'il plaide sans relâche son innocence. Voyage au bout de la cruauté. À sa sortie de prison, il tente de retrouver une vie normale, sans que l'État texan ne lui apporte aucune compensation pour l'horreur que la justice lui a infligée. Alors que la loi contraint le Texas à offrir une indemnisation aux victimes d'erreurs judiciaires, Randall Adams, lui, ne recevra rien. L'affaire a été classée, certes, mais il n'a pas été innocenté lors d'un nouveau procès, et il n'est donc pas officiellement considéré comme victime d'une erreur judiciaire. Hors de prison, Adams consacre le reste de sa vie à la lutte contre la peine de mort avant de mourir dans l'anonymat d'un cancer du cerveau en octobre 2010 à l'âge de 61 ans. 6 ans auparavant, 2004, David Harris, l'homme qu'il avait accusé à tort, mourait lui en prison par injection létale pour un autre crime. Il n'aura jamais eu à répondre devant la justice de ses confessions dans le film d'Errol Morris.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel de rose, ou ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent un assassin si beau qu'il fait pâlir le jour.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le film Blue Line, dont nous allons parler avec notre invité Jean-Xavier de Lestrade. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur de films documentaires et de fiction. Vous vous intéressez en particulier à la justice. Vous avez remporté, je le rappelle, l'Oscar du meilleur film documentaire en 2002 pour Un coupable idéal. En 2019, vous avez réalisé la série Laetitia pour France 2. Et vous avez également produit et coécrit une série documentaire qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle Trial 4, donc Trial 4. On en parlera, on en dira un mot à la fin de l'interview. D'abord, la critique place parfois certains de vos films dans la lignée de celui d'Errol Morris, The Thin Blue Line. Est-ce que pour vous, c'est un modèle, c'est une sorte de maître étalon de ce genre de travail ?
Bah oui, incontestablement. Et d'ailleurs, je pense que je lui dois personnellement beaucoup, parce que c'est en regardant son film et en le regardant plusieurs fois au tout début des années 90 que j'ai moi-même conçu l'idée de faire des documentaires sur autour de la justice, et son film est vraiment un exemple, et 30-35 ans plus tard, ça reste toujours un exemple presque inégalé.
Donc sur le fond et sur la forme également, la plastique du film est belle.
Oui, alors tout est magnifique. Et alors à l'époque, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques, des critiques, des documentaristes qui n'aimaient pas le film parce que à l'intérieur, il y a des, vous l'avez rappelé, il y a des bouts pas vraiment de fiction, mais de récréation de la réalité avec des comédiens, donc un peu le crime, tout ça. Mais c'est fait d'une manière remarquable. Avec, vous l'avez dit aussi, dans une forme d'esthétique très très polar noir, années 40, années 50, et donc c'est toujours fait avec une élégance et un goût parfait. À cela, il faut rajouter l'idée géniale d'avoir demandé à Philippe Glass de composer la musique du film.
Ça concourt beaucoup à l'atmosphère et à la qualité.
L'atmosphère cette capacité que nous avons à écouter ces témoignages qui sont parfois très très longs, mais la musique qu'a composée Philippe Glass, qui est une des plus belles musiques composées pour un film. Rien que pour la musique de Philippe Glass, j'encourage tout le monde à voir.
Qu'on a entendu
film.
Dans l'émission d'ailleurs, ça vous a pas échappé. Hein. On a mis
exactement,
ça en fond.
Exactement. Donc, c'est un film qui est un marqueur, qui est un véritable marqueur pour, je pense, tous les documentaristes, et je sais plus si c'est son premier film ou son deuxième film, mais en tout cas c'est un coup de maître.
Dans Un coupable idéal, ça c'est vous, qui est sorti en 2002, vous ne refaites pas l'enquête comme le fait Errol Morris dans le film Blue Line, mais vous filmez le procès du jeune Brenton Butler, un Américain de 15 ans, noir, accusé du meurtre d'une femme blanche, pour lequel il plaide l'innocence. Pourquoi ce cas-là, Brenton Butler?
C'est le hasard, et souvent, et comme dans l'affaire de Sim Blue Line, Errol Morris ne voulait pas filmer l'affaire de Randall Adams. Il était là pour filmer un médecin légiste, Mr. Death.
Oui.
Donc c'est au cours d'une interview de ce Mr. Death qu'il découvre l'affaire Randall Adams. Moi, j'étais en Floride, dans le nord de la Floride, à Jacksonville, dans un cabinet d'avocat, en train d'étudier d'autres histoires, d'autres affaires qui n'avaient rien à voir avec l'affaire de Brenton Butler, et le hasard me fait rencontrer un avocat qui me donne rendez-vous le lendemain dans une salle d'audience où il y a une petite audition préliminaire d'une affaire, et là je découvre Brenton Butler, 15 ans et demi, accusé d'un crime absolument atroce. À un moment donné, au cours de l'audience, nos regards se croisent. Et j'ai l'intuition que ce gamin n'était absolument pour rien dans le meurtre pour lequel il était accusé. Intuition, mais bon, après il fallait étayer, il fallait aller plus loin, mais j'étais, en fait c'est le hasard de la rencontre, et de la rencontre avec son avocat, la rencontre avec lui, avec sa famille, qui fait que je me suis intéressé à cette histoire et qui m'a fait plonger dans cette affaire, et c'est vrai que là on n'était pas après le procès, on était avant le procès, 6 mois avant le procès, et l'enjeu n'était pas de prouver son innocence, puisque c'était à l'avocat de le faire au cours du procès, mais il y avait quand même l'idée que notre présence, le fait que nous allions être là, nous allions filmer chaque minute de ce procès, allait mettre quand même, pour les témoins, le juge, les jurés, mettre une petite pression en disant vous faites pas vos affaires comme d'habitude entre vous.
Oui, entre vous.
Les gens vous regardent.
Oui, ça c'est important. Alors, je vais un peu vite parce que je voulais aborder plusieurs choses avec vous. Que ce soit The Staircase, conçu comme un documentaire normal, mais vous en avez réalisé 8 épisodes, ou que ce soit The True Crime, là c'est les Anglais dont Netflix est friand. C'est une nouvelle écriture documentaire que de faire une série comme ça, plutôt que s'arrêter à 90 minutes, on fait une série, on y va, parce que ça donne de l'espace, c'est une écriture documentaire qui est de l'avenir, ça.
Qui est très prisée. Oui, en même temps, il faut faire très attention parce que c'est quand même très compliqué d'arriver à faire une série documentaire à partir d'un fait réel, en suivant un fait réel, parce que le principe même du documentaire, c'est que quand vous commencez à filmer, vous n'avez pas le don de prédiction et vous savez pas ce qui va vraiment arriver. Et parfois, il y a pour faire The Staircase, on a étudié 400 affaires différentes avant de choisir de tourner l'affaire de Michael Peterson.
Ah, quand même.
Oui, ça a duré presque un an de recherche. Mmh. Et encore, quand on commence à tourner l'affaire de Michael Peterson, on part pour un film de 2 heures. Sauf que on pense posséder les ingrédients d'un très bon film. Après, les faits font que l'histoire fait que ça va faire d'abord 8 heures et même 13 heures. En fait, à l'arrivée, c'est 13 heures.
Le principal, c'est que le public y trouve son compte.
Oui, oui, bien sûr.
On se retrouve dans 3 minutes.
L'accusé est condamné à une peine de...
Jean-Xavier de l'Estrade, c'est quand même assez rare qu'un film comme Thin Blue Line débouche sur un changement judiciaire, enfin sur un changement de verdict, c'est extrêmement rare.
Oui, oui, oui. Là, c'est la totale réussite du film, c'est que, personne peut aujourd'hui nier que la réalisation de ce film, la publicité qui a été faite autour du film, n'ait pas joué un rôle considérable, voire essentiel, dans la décision de la Cour d'appel de casser le procès qui avait condamné Randall Adams. Mmh. Même s'ils se sont empressés de dire en même temps que le film n'y était pour rien. Mais
voyons.
Évidemment, qu'ils étaient indépendants, qu'ils avaient pris leur décision de manière indépendante. Mais parfois, quand on fait des films, on peut jamais avoir l'ambition de dire on se lance dans une affaire pour démontrer l'innocence de quelqu'un ou de parce que c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué et principalement aux États-Unis. Là, j'ai produit avec Mathieu Belghiti une série pour Netflix. Sur ça rappelle beaucoup l'affaire
Trial 4, c'est ça, non?
Trial 4,
ah ben voilà,
Trial 4, le quatrième procès qui est sur Netflix, qui raconte, c'est l'histoire d'un jeune noir qui est condamné en 1993 pour avoir assassiné, tué un flic aussi.
Oui.
Ça se passe à Boston, un détective.
Mal parti, il tue un flic et un noir.
Il a 19 ans. Il est condamné à prison à vie. Il n'est pas condamné à mort, il est condamné à prison à vie. Très rapidement s'accumulent les preuves qui montrent bien, qui prouvent que ce Sean Ellis, il s'appelle Sean Ellis, n'est absolument pour rien dans le meurtre du flic. Pour rien du tout. Et non seulement il n'y est pour rien, mais en plus il a été l'objet d'une sorte de complot. En fait, le flic a été tué, faisait partie d'un petit groupe de flics bostoniens qui étaient corrompus qui dealaient de la drogue, qui avaient un réseau de prostitution, etc., etc. Et pour étouffer leur propre corruption, il fallait trouver un coupable très rapidement, et ils ont pris ce jeune noir, Sean Ellis, de 19 ans, et ils ont réussi à le faire condamner. Mais les preuves ont été assez rapidement, il y a eu énormément de preuves qui ont montré que ces flics étaient corrompus, que Sean Ellis n'était pour rien dans le meurtre du détective Mulligan. Et pourtant, il a fallu à son avocate, qui est une excellente avocate, Rosemary Scarpiccio, il a fallu 20 ans, 22 ans, pour sortir Sean Ellis de prison.
Donc ça veut dire 22 ans de sa vie gâchée, éliminée,
entre l'âge de 19 ans à 41 ans. Il est resté en prison pour un meurtre qui n'a absolument pas commis. Et même chose que pour Randall Adams, une cour d'appel a fini par casser le premier procès, mais comme il n'y a pas eu un autre procès dans lequel il a été déterminé qu'il était innocent, pour la justice, il reste le principal suspect et donc il n'y a aucune réparation possible. Donc c'est assez pervers le système.
Alors le système américain, on parle d'affaires américaines. Pourquoi pas tourner des affaires françaises? Ou pourquoi pas? Parce qu'il n'y a rien d'obligatoire. Mais
non, mais si on pourrait. Après, il se trouve que moi, les États-Unis, je connais assez bien. J'ai tourné beaucoup là-bas et il y a quand même une ouverture pour pouvoir tourner dans les prétoires, dans les cours d'assises, ou auprès des avocats. Enfin, il y a quand même une forme de liberté qui, jusqu'à peu, était beaucoup plus difficile.
Ouais.
En France, l'accès, on va
l'accès.
Dire. L'accès. L'accès était beaucoup plus compliqué. Là, la loi est en train de changer, tout ça. Donc, il va être possible de tourner, d'introduire les caméras dans les cours d'assises, mais l'accès est quand même beaucoup plus difficile.
Bien, merci infiniment Jean-Xavier de l'Estrade. Et puis pour ceux qui s'intéressent à ces erreurs judiciaires, là c'est une fiction mais c'est intéressant, il y a la série The Night Of, qui est très très belle série qui aborde exactement ce genre de thème. Merci encore, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui de Thin Blue Line, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sofiane Aktib.